Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
Mais oui, bonjour à tous, c'est bien Human, c'est bien l'émission autour de l'écologie et de l'humanitaire, avec aujourd'hui un thème sur l'Algérie et sur la permaculture. Et pour ce thème, nous avons à la fois des gens qui vont nous parler et puis des gens qui vont jouer de la musique. Alors ceux qui vont nous parler, eh bien c'est d'abord Michel Wilson, bonjour.
Bonjour.
Voilà Michel Wilson, vous êtes le président de l'association franco-maghrébine Coup de Soleil d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et Coup de Soleil, c'est quoi, en trois mots ?
C'est une association qui fait des ponts par-dessus la Méditerranée entre les peuples du Maghreb, des trois pays, et de chez nous, et autour de la culture au départ, et puis aujourd'hui de l'agroécologie, de la permaculture.
Voilà. Et puis nous avons aussi Zora Abderrahman qui, bien qu'expert comptable, s'intéresse aussi à la permaculture. Comment ?
En fait, comment je me suis intéressée à la permaculture, je crois que je tiens ça de mon grand-père qui est paysan et qui avait des exploitations. Et je crois que cette passion ne m'a jamais quittée tout au long de mes études et de mon parcours que j'ai fait donc en même temps que j'ai travaillé. En fait, j'ai mené mes études d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Et aujourd'hui, je reviens à mes sources, qui est la permaculture. Et j'ai quelques projets, en fait, dans ce domaine-là.
On va y revenir, parce que l'association des chiffres, et non pas des lettres, mais de la terre, c'est quand même assez, assez riche et assez intéressant. Et puis, nous avons autour de cette table aussi Yanis Merakeb, qui est le plus jeune d'entre nous. Il a 26 ans. Il est doctorant entre Alger et Lyon. Et actuellement, il est à Lyon. Et que fait-il ? Bonjour.
Tout à fait. Bonjour. Merci de nous recevoir. Effectivement, je fais une thèse de doctorat en télécommunication en co-tutelle entre l'université d'Alger de Bebzouar et l'université de Lyon. Et je suis aussi adhérent à l'association Torba qui est basée à Alger, qui donc vise à promouvoir la permaculture et l'agroécologie en Algérie.
D'accord.
Mais pas que.
Voilà. Et puis, nous avons également des musiciens en live aujourd'hui pour nous accompagner. Nasser Hamzaoui, d'abord, bonjour.
Bonjour.
Et voilà. Et alors vous êtes aussi une grosse tête parce que vous êtes à la fois un musicien, et on va voir quel musicien vous êtes, avec votre complice, mais vous êtes aussi un docteur en acoustique, c'est ça ?
Pas aujourd'hui.
Pas aujourd'hui.
Pas aujourd'hui, parce que, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, ma grosse tête, elle est dans les vestiaires, là. Voilà. Les patates sont dans le chapeau.
Et donc, vous nous jouez avec votre partenaire Mohamed M. Sahel, bonjour. Vous nous jouez peut-être quelque chose pour nous mettre en bouche. Voilà, juste une toute petite sonorité, quelques sons pour nous donner envie de vous écouter tout à l'heure, et ce sera avec grand plaisir. Alors, on le disait à l'instant, Yanis Merakeb, vous êtes, vous, membre de l'association Torba. Alors, quels sont les liens entre l'association Torba et l'association Coup de Soleil ? Est-ce qu'il y en a ?
Oui, bien sûr, il y a beaucoup de liens. Déjà, il y a un projet en commun qui est fait en collaboration, donc en partenariat avec Coup de Soleil, entre Torba, Coup de Soleil, la ferme pédagogique d'Alger, et puis financé par l'ambassade de France. Donc ce projet, c'est Pot Alger, qui vise à initier des personnes intéressées par la permaculture, aussi autour de la question du tri et du recyclage des déchets. Et ce projet va être renouvelé cette année, et il aura pour but d'accompagner techniquement et financièrement des porteurs de projets sur l'agroécologie et la permaculture.
Et alors, comment arrive-t-on, quand on a 26 ans et qu'on est un scientifique, puisque vous faites une thèse en télécommunication sur les questions de radiofréquence, c'est bien ça, je n'ai pas dit de sottises.
Et c'est exactement ça, oui.
Voilà, comment fait-on, par quel miracle on passe de la radiofréquence à la permaculture?
Bah écoutez, on me pose souvent cette question, mais après je dis que donc, quelle que soit notre profession et l'horizon duquel on vient, les questions de la préservation de l'environnement, des questions liées à la sécurité alimentaire, à la santé publique, nous concernent tous et devraient tous nous concerner, quelle que soit donc, notre profession. Et il y a beaucoup, de plus en plus de personnes qui ont fait le constat que notre mode de vie a des conséquences néfastes sur, sur l'environnement, sur notre santé, sur notre qualité de vie. Et donc, peu importe d'où l'on vient, on devrait s'intéresser à ça et contribuer à ces causes-là.
C'est comme si, Michel Wilson, pour revenir à vous, c'est comme si nous étions tous, ou comme si nous devions tous devenir des sortes de néo-ruraux.
Oui, et puis en l'occurrence, on va puiser notre inspiration au sud. C'est le sud qui nous inspire et que nous, Coup de Soleil, on va chercher les expériences qui sont faites en Algérie, mais aussi au Maroc et en Tunisie, pour les ramener chez nous et puis essayer d'inspirer notamment des jeunes autour de ces projets qui sont menés par des gens passionnés, passionnants au sud.
Alors prenons un exemple concret, illustratif, justement de ce que vous faites, de ce que votre association fait avec l'Algérie, en permaculture, et peut-être au préalable, définir pour nos auditeurs ce qu'est la permaculture.
Ben, la permaculture, au départ, c'est un mode d'agriculture permanente, permaculture, c'est un acronyme qui a été fabriqué par notamment les créateurs de la permaculture, qui sont des Australiens, notamment Bill Mollison, et... Le constat, c'est à partir du fonctionnement des forêts qui, spontanément, sans que l'homme ait besoin de faire quoi que ce soit, organisent des écosystèmes stables par les interactions entre le sol, le sous-sol, les différentes couches de végétaux, etc. Et donc, en s'inspirant de ça, on a montré qu'on était capable de faire une production agricole pérenne, abondante, résiliente, durable, qui consomme peu d'eau, qui consomme peu de surface, etc. Et puis, à partir de là, c'est aussi un mode de vie complet. Ça ne sert à rien de faire une agriculture permanente si on va se loger dans un bâtiment en béton affreux ou si on utilise des 4x4 pour conduire. Donc, ça, c'est une civilisation qui se crée autour de ça.
Donc, une sorte de simplicité, de retour aux sources, de conservation
du bon sens,
de l'humidité, du bon sens, dites-vous, Yanis Merakeb, allez-y, oui, le bon sens,
oui,
pourquoi
du bon
parce
sens,
que l'agriculture est devenue absurde.
Du bon sens dans notre manière de vivre ensemble, dans notre manière d'utiliser nos ressources, et dans une logique de relocaliser l'activité humaine, on va dire. Et j'ajouterais juste rapidement que la permaculture, donc concrètement, c'est une éthique et c'est aussi un ensemble de méthodes et de techniques qui permettent de concevoir des systèmes, donc, comme disait Michel, résilients et durables. Et pas que en agriculture, mais aussi ça touche d'autres... des écosystèmes en général.
Qu'est-ce que ça veut dire écosystème? Je fais l'idiot un peu, hein, comme ça. C'est pour qu'on me donne du foin à manger. Je fais l'âne, plutôt.
Je dirais spontanément, écosystème, c'est en fait plusieurs systèmes qui cohabitent en fait au sein d'un ensemble global, mais qui s'enrichissent et qui cohabitent de manière résiliente et durable.
Par exemple, quel système?
Par exemple, le meilleur système, ça serait la forêt.
Oui.
Comme a dit Michel.
Les vers de terre, les champignons,
oui, voilà,
les bactéries, les racines des arbres, les arbres qui communiquent entre eux par leurs racines, on le sait maintenant.
Il suffit de sortir en nature pour en voir. Ouais. Mm-hmm.
Les arbres se parlent.
Le bien-être de l'homme.
Zora
c'est
Berman,
en fait la préservation en fait de la nature, le partage équitable aussi en fait parce que ça c'est un point important hein, donc dans la permaculture. Donc tout ça ça forme en fait plusieurs systèmes effectivement qui sont en harmonie en fait entre eux et qui se mutualisent en s'enrichissant en fait chacun pour apporter un bien-être à tous les êtres vivants, que ça soit donc l'homme mais c'est aussi le sous-sol, le, ce qui est sur le sol, voilà, pour moi c'est ça la permaculture, c'est une philosophie, c'est un mode de vie, c'est en fait des actions que l'on fait pour préserver la nature.
C'est un mode de production, mais qui est aussi un mode de vie et une manière d'appréhender, et donc une philosophie, voilà. Une manière d'appréhender le monde.
Mmh. En même temps, en fait, il y a une optimisation en fait, aussi, parce que les gens ont besoin de se nourrir, mais ils vont mieux se nourrir. Avec, comme disait Michel, parce que je fais aussi partie de Coup de Soleil, j'ai oublié de le dire, mais en fait, on permet à l'agriculteur de pouvoir utiliser ses sols de manière optimum, sur une petite surface, de pouvoir, en fait, faire une production plus importante sans, en fait, tout en respectant la terre et la nature, donc sans intrants, sans en fait pesticides, sans tout ça. Voilà.
Et alors, Zora Abderrahmane, j'ai envie de vous poser la même question que celle que j'ai posée à Yanis. Lui, c'est un scientifique, il arrive à la permaculture. Vous, vous êtes une femme de chiffres, puisque vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes, pardonnez du peu, et vous arrivez à la permaculture. Par quel miracle ?
Parce que je crois que justement, comme vous disiez ou comme on disait, c'est une philosophie de vie. C'est qu'à un moment donné, les chiffres, donc c'est bien toujours la rentabilité, toujours aller plus loin. Mais à un moment donné, en fait, on a besoin d'un sens à sa vie. Et à partir de là, moi, j'ai toujours gardé, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai toujours gardé la passion de la terre, l'admiration en fait de la nature, d'être, de vivre en harmonie.
Vous êtes née en France ou en Algérie ?
Je suis née en fait en Algérie. Je suis née pendant la guerre en plus, donc du coup.
Pendant, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre de libération de l'Algérie,
oui,
on est d'accord.
Oui, c'est ça en fait. Hein, oui. Pendant la guerre d'Algérie, oui, donc oui. On est venu en France. J'étais très très jeune parce que j'avais 2 ans, et à partir de là, j'ai toujours gardé ce souvenir de la terre, du goût de la terre. Et j'ai toujours envie, je pense que j'ai fait mes études, c'est pour pouvoir arriver à cette finalité-là. C'est-à-dire que, comme j'ai fait mes études...
Vous avez fait des études pour revenir à la terre ?
Oui, parce que je suis d'un milieu modeste, hein, donc comme beaucoup de personnes, et que j'avais pas les moyens de pouvoir... Il fallait que je me donne les moyens, en fait, de pouvoir arriver à... avoir, donc je recherche une maison de campagne où j'aurai en fait où je mettrai de la permaculture, où j'aurai des animaux, tout ça, etc. Donc voilà,
et où
c'était
tu mettras tes ruches, et où tu mettras tes ruches, parce qu'elle est
oui.
aussi apicultrice.
C'est vrai que parallèlement donc à mes études, il y a très peu de temps, j'ai eu la passion des abeilles. Et j'ai pris des cours d'apicultrice et effectivement, donc j'ai 2 ruches que je soigne et je soigne les abeilles et j'apprends en même temps parce que j'ai un projet aussi pour l'Algérie, donc peut-être qu'on parlera après des projets pour les femmes rurales. Et que je voulais, en fait, je voulais qu'on puisse mettre des ruches, qu'on donne des ruches donc à ces femmes-là pour qu'elles puissent gagner en autonomie et s'occuper des ruches, avoir un métier. Beaucoup de femmes se retrouvent seules dans le milieu rural et je trouve que c'était important qu'elles puissent gagner leur indépendance et qu'elles puissent avoir quelque chose pour vivre. Et l'abeille subsaharienne est en train de disparaître aussi. De l'autre côté, on peut mettre un
L'abeille subsaharienne, c'est-à-dire l'abeille
oui.
qui est dans les pays d'Afrique noire.
Oui, c'est ça en oui. fait. D'Afrique Afrique du Nord aussi. Hein, donc,
et d'Afrique du Nord aussi,
voilà.
oui.
Parce qu'il y a plusieurs variétés d'abeilles.
Mais elle disparaît
d'abeilles.
Dans des proportions plus importantes que la disparition qu'on constate en Europe ou pareil ?
Eh ben en fait, peut-être un petit peu plus dans le sens qu'il y a une urbanisation qui est très importante. Donc du coup, il y a moins de nature pour qu'elles puissent survivre.
Ben oui, mais on m'explique aussi que c'est à Paris qu'il y a des abeilles et qu'il vaut mieux quand on a une abeille être à Paris qu'être en campagne aujourd'hui en France.
C'est vrai, mais l'abeille sauvage, elle disparaît justement à Lyon. Je crois qu'ils ont arrêté de permettre à des ruches domestiques de
se
propager. Parce qu'elles
sont en concurrence avec les abeilles sauvages.
Voilà. Et l'abeille sauvage butine certaines, elle pollinise certaines variétés de plantes que l'abeille domestique ne pollinise pas aussi. Donc, du coup, on modifie les écosystèmes en même temps. Donc, puisque les fleurs ne vont pas, certaines fleurs ne vont pas se propager. Puisque l'abeille en fait sauvage est en minorité, donc et du coup on désorganise encore la nature.
Oui, parce que c'est l'abeille sauvage, si je vous suis bien, qui pollinise.
Non, les deux pollinisent, mais elles ne pollinisent pas la même chose.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire qu'il y a certaines plantes qui sont pollinisées que par des abeilles sauvages et d'autres plantes qui sont pollinisées par toutes les abeilles. Et ces plantes sauvages n'étant pas pollinisées, elles vont disparaître. Et donc, du coup, ça déconstruit, ça affaiblit l'écosystème par la disparition de certaines variétés de plantes.
Bon, d'accord.
Vous savez, quand on parle de biodiversité, la biodiversité, c'est notre assurance. C'est notre assurance vie.
Bien sûr. La biodiversité, notre assurance vie. Voilà.
Et la permaculture promeut la biodiversité à la fois dans la culture, mais aussi elle suscite, l'exemple le plus connu est celui de la ferme du Bec-et-Loin en Normandie, où s'est créé, alors l'écosystème est complet, c'est-à-dire vous avez des batraciens, vous avez des insectes, vous avez des oiseaux, vous avez des petits mammifères et tout qui reviennent et qui créent une vie complète autour de cette ferme en permaculture.
Et l'idée est donc de créer localement des petites zones comme ça, de repartir de petites zones voilà, où on retrouve cette biodiversité pour que ces petites zones se propagent et s'élargissent.
Est-ce que c'est réaliste, ça ? Il faudra aller probablement plus vite que ça. Je pense que, idéalement, on pourrait imaginer sur des grands territoires, des micro-fermes de quelques hectares qui se juxtaposent les unes aux autres, qui aient chacune leurs caractéristiques propres.
D'accord, d'accord. Ben nous voilà bien partis avec cette biodiversité, cette permaculture et l'Algérie qui va arriver et qui commence déjà à arriver. Écoutez-la, l'Algérie, la voilà.
حاسبني وخود كراك ما تسالي وانا نسال ما نبقى نجري موراك نسير في حالي نسير في حالك حاسبني وخود كراك ما تسالي وانا نسال ما نبقى نجري موراك نسير في حالي نسير في حالك نسمع لقوالك كل مرة كي نلقاك نقول لك عزم مشافك شحال قصيت معاك وشحال سعفت هبالك غير نساني وننساك قريب ما فهمت حمالك حاسبني 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 لديالي ما هو ديالك لديالي ما هو ديالك حاسبني وخود كراك ما تسالي ولا نسال ما نبقى نجري مورك نسير في حالي نسير في حالك حاسبني وخود كراك ما تسالي ولا نسال ما نبقى نجري مورك نسير في حالي نسير في حالك ما تحسبني كي بحالك ياك الناقص مشتاق في الدنيا راهو مسالك غير سمعني فشقاك غير تركني من بالك كي رجعت سبا وهلاك الندب ولي خبارك حاسبني 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 لديالي ما هو ديالك لديالي ما هو ديالك حاسبني وخود كراك ما تسالي ولا نسالك ما نبقى نجري موراك نسير في حالي نسير في حالك حاسبني وخود كراك ما تسالي ولا نسالك ما نبقى نجري موراك نسير في حالي وتسير في حالك.
Voilà, Mohamed M. Sahel aux percussions et Nasser Hamzaoui
au mandol.
Au mandol. Voilà. Et le titre ?
Le titre, c'est en fait, ça, c'est un petit peu. Qui paye ses dettes s'enrichit. Oui. C'est ça le thème. C'est une chanson de d'Ahmal Harrachi, qui est un chanteur du Chaabi algérien qui a longtemps vécu en France et il a écrit un nombre très très important de chansons. On estime à 500 chansons et qui des petites chansonnettes sur un petit peu la moralité, la vie sociale. Et donc ça c'est une petite chanson sur sur le bon compte font les bons amis. Quoi.
Les bons comptes font les bons amis et qui paye ses dettes s'enrichit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tous les cas, ça sonne bien.
Bah, c'est exactement la permaculture.
Exactement.
et on revient à la permaculture.
C'est un des rares cas, la permaculture, où l'homme qui vit sur un espace, quand il meurt, il rend l'espace plus riche que ce qu'il a trouvé en arrivant. La plupart du temps, on fait exactement l'inverse, on consomme tout. Là, au contraire, on enrichit l'espace. C'est
pourquoi
pas rien. Hein.
Pourquoi on l'enrichit?
Parce que d'abord, on crée du sol. Un sol qui peut être complètement minéral, on le fait redevenir vivant par l'apport de tout le savoir-faire de la permaculture, à la fois des végétaux en décomposition, du compost, etc. Et du coup, si vous mourrez sur place et que vous êtes consommé par les vers, vous enrichissez encore l'ensemble de cet écosystème.
Et évidemment, il faut voir ça par opposition à une agriculture qui exploiterait trop les sols et qui les assécherait en quelque sorte ou qui les rendrait plus chimiques. C'est bien ça, la permaculture, quelque part, s'oppose.
C'est le vivant par rapport à du non-vivant, de l'artificiel. Alors, moi, je suis assez mesuré par rapport aux paysans qui nous nourrissent quand même depuis une éternité. Donc, chapeau et merci à eux, etc. Maintenant, peut-être qu'il faut les aider à passer à autre chose que ce qu'on leur a incité à faire en mécanisant et en artificialisant la production agricole.
Mais surtout l'appauvrissement des terres. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on pille un peu la terre et il y a beaucoup de terres qui ne sont plus cultivables puisqu'elles n'ont plus de ressources, il n'y a plus d'éléments suffisants pour pouvoir nourrir une plante. Et notamment en Algérie, quand on y était allé, on a vu quand même beaucoup, parce que c'est vrai qu'après, par rapport à la décennie noire, donc il y a beaucoup de paysans qui sont descendus dans les villes.
Donc décennie noire, je m'adresse aussi aux plus jeunes qui ne sont pas forcément au courant, décennie noire, c'est-à-dire les 10 ans pendant lesquels l'Algérie a connu une guerre civile.
C'est ça, en fait.
Meurtrière.
Des dizaines de milliers de morts, par les islamistes en particulier.
Oui, par des terroristes, en fait.
Des terroristes,
par des terroristes. Et donc, du coup, les paysans n'étaient plus en sécurité donc, sur leur terre. Beaucoup sont descendus dans la ville et ils ont abandonné les terres. Et les terres, elles ne se sont pas enrichies. Beaucoup de terres se sont appauvries en étant abandonnées. Donc, il n'y a plus la possibilité. Il faudrait reconstruire les sols pour pouvoir repartir, replanter du seigle pour que ça puisse nourrir le sol, pour après amoblir en fait les sols pour qu'ils puissent devenir cultivables et recultivés.
Quel a été l'impact? C'est une question qui m'arrive comme ça à l'esprit à l'instant. Quel a été l'impact de la colonisation globalement, c'est-à-dire de la plantation de vignes, par exemple, mais aussi de blé et de beaucoup d'autres choses? Quel a été l'impact sur les terres algérienne. Je ne sais pas si c'est une question à laquelle il est facile de répondre. Est-ce que le colonisateur, globalement, sur un siècle et demi, a enrichi la terre algérienne ou est-ce qu'il l'a appauvrie par un usage excessif, entre autres, de produits chimiques?
En tout cas, il l'a transformé. C'est-à-dire qu'il y a eu appropriation par le colonisateur.
Parce que c'était
terres.
Le grenier à blé, l'Algérie, on est d'accord, y compris du temps des Romains,
oui,
il y a 2000
dit,
ans.
Peut-être...
Ah ben, c'est ce qu'on dit.
Oui, on le dit. Mais peut-être pas autant que ce qu'on dit.
D'accord.
Quand
okay.
même. Mais les colonisateurs se sont appropriés les meilleures terres. Et du coup, les paysans algériens ont dû remonter dans les djebels, dans les montagnes, etc., pour tant bien que mal, essayer de rendre fertiles des zones qui étaient jusque-là du maquis ou de la forêt, etc. Et je suis pas certain que le bilan global soit si glorieux vis-à-vis de la France. Bon, moi, je suis né en Algérie, fils de pieds noirs, etc., pieds noirs moi-même. Respect pour mes ancêtres, mais enfin, on n'était quand même pas là où il fallait qu'on soit. Quoi.
Les terres, par exemple, toutes les terres qui étaient exploitées en vignes, parce qu'on a planté beaucoup de vignes, et l'Algérie faisait beaucoup de vin, elle en fait beaucoup moins aujourd'hui, pour des raisons aussi religieuses, bien sûr. Ces terres qui étaient en vignes, elles sont à quoi maintenant ?
Il y a toujours de la vigne, plutôt de raisin de table, beaucoup, mais l'Algérie s'est remis à produire de l'excellent vin à Mascara, les coteaux de Tlemcen, etc. On trouve de très très bons vins. J'ai goûté un rosé qui s'appelle, je vais pas retrouver le nom tout de suite, qui était tout à fait remarquable.
Et, il va falloir qu'on fasse une autre émission, que vous veniez avec une bouteille là.
Absolument. Voilà. Non. Et ils ont formé aussi des gens à l'élevage des vins et ils savent très bien le faire et en parler en plus.
Voilà. Alors, Michel Wilson, puisqu'on est avec vous et que vous avez la parole, prenons un exemple d'une des réalisations de votre association, de cette association, cette ONG, Coup de Soleil, dans une activité concrète en relation entre la France et l'Algérie.
On va dire deux choses. D'une part, on a soutenu l'association Torba en Algérie, mais je vous dis aussi, nous intervenons auprès de l'association tunisienne de permaculture, et ça, je crois, Zora pourra en parler sur notamment des choses auxquelles on a assisté avec eux. Et puis des associations au Maroc, notamment l'association Darna à Tanger, la Terre et Humanisme Maroc. On essaye de créer des liens entre toutes ces associations en Algérie, en Tunisie, au Maroc et en Rhône-Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a aidé l'association Torba dans son projet Potalger, dont parlait Yanis tout à l'heure, qui est un projet qui vise notamment les jeunes, c'est-à-dire on les forme à la permaculture, il y a une initiation, et là on entre dans une deuxième phase où on va aider quelques jeunes à s'implanter, à créer leur activité de ferme permacole en Algérie. On vient de recevoir l'argent de l'ambassade de France pour aider l'association à mener cela.
Mais avant Potalger, en fait, quand on est parti la première fois en Algérie, c'était aussi pour mettre en relation les paysans avec justement l'association Torba et essayer de mettre en place la possibilité pour les paysans en fait de jouer le jeu, de ne pas mettre d'entrants dans leurs produits et de faire du bio, et de l'autre côté les personnes en fait qui pouvaient avoir un panier régulièrement toutes les semaines de produits locaux et de produits de saison.
Là-bas, à Alger.
Alger. La première chose qu'on avait fait, c'était ça, Mascara et Alger.
On a essayé de développer à Mascara la même chose que faisait Torba. Hein. Le Torba, ils ne nous ont pas attendus pour démarrer, notamment les AMAP, qui s'appellent, je retrouve.
Oui,
plus.
TAFAS.
L'AMAP de française,
voilà, c'est le TAFAS.
C'est-à-dire l'endroit où on va chercher son panier chaque semaine,
voilà.
Avec des poireaux, les pommes de terre, enfin ce qu'on veut bien vous donner.
Oui. L'acronyme, c'est Association pour le maintien de l'agriculture paysanne.
D'accord.
Donc on a traduit ça quasiment littéralement en arabe pour
oui, allez-y
pour que ça soit parlant pour la culture algérienne, on va dire, et donc qui vise à regrouper donc les petits producteurs, les artisans en réseau, et de faire le lien entre donc producteurs et consommateurs
en circuit court,
exactement, Michel, dans le but justement de favoriser le local et voilà de...
Mais pourquoi est-ce que les Algériens, pour faire ça, ont besoin d'une association au Coup de Soleil? Je veux dire, ils sont capables de faire ça tout seuls, non?
Alors, ce qui est
pardonnez-moi, hein, c'est un peu ça me sort du cœur là.
Oui,
comme ça.
Non, vous avez tout à fait raison.
Parce que c'est simple, quoi.
Ah. Oui, ils avaient déjà commencé en fait. Hein.
Ouais.
Alors,
ouais.
Je pense que l'intérêt de ce que fait Coup de Soleil, je pense qu'il est double. Déjà que Donc la permaculture et l'agroécologie en fait proposent deux nouveaux modèles en fait qui se mettent en place. De nouveaux modèles qui se mettent en place. Et donc pour faire mûrir ces modèles-là, ces nouveaux modèles économiques, c'est toujours bien de créer des échanges d'expériences.
D'accord.
Il y a des expériences qui se font un peu partout, en Tunisie, au Maroc, en Algérie et en France. Et le fait qu'il y ait ces échanges-là, il y a un apprentissage mutuel, puis on s'inspire des uns et des autres. Et c'est ce qui fait avancer ces causes-là. Et puis la permaculture a l'avantage d'être un concept qui fédère les gens autour de valeurs communes. Et voilà, c'est le cas de l'Algérie où beaucoup de jeunes, de plus en plus de gens s'intéressent à ces choses-là et se lancent dans des projets dans ce sens et en France aussi.
Oui, je voudrais rajouter qu'il faut saluer le travail qu'a fait Terre et Humanisme, l'association de Pierre Rabhi, qui aussi bien au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et qui est un peu l'inspirateur de toutes ces actions dans tout le Maghreb. Donc c'est eux qui ont démarré les premiers, nous on arrive en plus. Et puis alors, autre chose, on vient pour aider, bien sûr, pour fédérer, mais aussi on vient pour les piller un petit peu. C'est-à-dire qu'on a... avec l'association Actes Publics Compagnie, on est allé tourner des films, des portraits d'acteurs en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Et ces films, 50 minutes à peu près, vont être des supports de conscientisation, d'émulation auprès de jeunes de France pour se dire que là-bas, au sud, ils font des choses merveilleuses et peut-être que ça peut inspirer des investissements, des mobilisations pour des jeunes ici. Voilà, on essaye de faire remonter le savoir-faire du sud vers le nord.
Voilà, bah écoutez, on poursuit notre cheminement. Ce cheminement, il est verbal. Il est mental, mais il est également musical.
ما بين الليل وما بين النهار عمرها مقدر من عند المجيب ربنا عالم الاسرار وانت حالك صعيب يا الحبيب مرات سماك صحية ومرات غير مطار مرات سماك صحية ومرات غير مطار مرات سماك صحية ومرات غير مطار في مضرب الأمان وانا صاحبني تي ما عندي نفسان والله ما دريت بحبابي رجعوا لي عديان علاش علاش هكذا خلوا النيران علاش علاش هكذا خلوني حيران هكذا يسرالي يا ناس نقرا حذري نعود هني نرجع لبال لو كان عرفت هكذا كنت نقطع لي ناس ما نخالطهم ما ندير في فكري وسواس لكن انا بنيتي ما شافوشي بحالتي ما نساهمش تنبيتي علاش ما هم حزان والله ما ادري بالغدرة في مضرب الامان وانا صاحي بنيتي ما عندي نقصان والله ما ادري بحبابي رجعوا لي عيان علاش علاش هكذا خلوا النيران علاش علاش هكذا خلوني حيران سابقا اني بالكاس اللوم والخلال عقل مني بذهب ساقاني بالكاس اللوم والخلال عقل مني بذهب خلا خيي متهور خلا خيي متهور خلا خيي متهور وبه نهيم وبه نهيم دعني يا نديم بشربي كاس الهوى يحيي لي قلبي متولع والعقل مسبي وبه نهيم دعني يا نديم بشربي كاس الهوى يحيي لي قلبي متولع والعقل مسبي وبه نهيم ساقاني بالكاس التاني هي جليعاتي وحزاني تالت به رواني تالت به رواني تالت به رواني الله نديم حيوي الله نديم دعني يا نديم بشربي كاس الهوى يحيي لي قلبي تولع والعقل مسبي وبه نهيب دعني يا نديم بشربي كاس الهوى يحيي لي قلبي تولع والعقل مسبي وبه نهيب
Chahabi ?
C'est du Chahabi, oui.
Voilà, Nasser Hamzaoui, parlez-nous peut-être quelques mots sur votre groupe Nouiba, n'est-ce pas ?
Oui.
Une formation composée de musiciens et de chanteurs qui fait cette musique traditionnelle et populaire du Maghreb, le Chahabi. Quelques mots sur le Chahabi, peut-être ?
Le Chahabi, donc, c'est un style qui est né à Alger, à la Casbah d'Alger, donc qui n'est pas très, très ancien, une centaine d'années, on va dire, qui est né en même temps, on va dire, le Chahabi qu'on joue actuellement avec la naissance de cet instrument qu'on appelle mandol, qui a été créé donc en association d'un maître du Chahabi, donc qui est décédé bien sûr, et un luthier algérien qui est d'ailleurs la famille est toujours à Alger qui fait cet instrument. Et c'est une des branches de l'arabo-andalou, puisqu'elle utilise, le Chahabi utilise les modes musicaux de l'arabo-andalou, on va dire les parmi les 24 noubas qui existaient donc dans l'arabo-andalou, il reste quelques-unes. Il y a quelques noubas donc qui ont été popularisés en termes musicaux par le Chahabi, en rompant un petit peu les dogmes et rigidités de l'arabo-andalou, comme la musique classique en Occident, donc où il fallait respecter certaines voilà, certaines noubas, par exemple, ne pas mélanger les noubas. Et en plus, a introduit des poèmes très populaires avec la langue, le dialecte algérien, qui est le parler, voilà, que tout le monde comprend, et surtout sur des thématiques plutôt sociales, sur l'amour, sur le... sur les problèmes de la société, alors que l'arabe andalou, on va dire, c'est quand même beaucoup plus l'amour, la nature. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'attaques directes sociales, quoi. Donc voilà, le Chaabi. Et donc j'ai chanté là une chanson encore. J'ai préféré la choisir d'Ahmel Harrachi parce qu'on est en France et puis il a fait beaucoup de choses. Il est très apprécié en France. Et donc là, c'était une chanson sur les relations humaines. L'amitié, la valeur de l'amitié qui est importante. Donc là, ça va aussi avec la, je trouve, avec la permaculture, hein, l'humanité, les relations humaines sont très importantes. Et j'ai fini par autre chose qui n'est pas de d'Ahmel Harrachi ou qui est sur Saqqani, en fait, voilà. Et, enfin, c'est la boisson, donc l'eau, l'importance de l'eau. Mais là, j'ai chanté plutôt sur le vin, le bienfait du vin, oui. Les bienfaits du vin, mais bon, bien sûr, hein, faut pas.
Et il n'y a pas de contradiction, par exemple, dans ce texte-là, entre les bienfaits du vin et l'interdiction de l'alcool par l'islam, par exemple.
Bah, dans les chansons, c'est vrai, dans les chansons, que ce soit arabo-andalouse ou Chaabi, voilà, on chante des choses qui peuvent effectivement des fois. À la fin, dans cette chanson, si j'étais allé plus loin. On chante jusqu'au dixième vers, donc on donne les effets bénéfiques, etc. Et le dixième vers nous rapproche du spirituel. Donc, tu vois, on voit qu'il y a un lien un petit peu avec...
et le Chaabi aussi permettait la rencontre entre les Juifs et les Arabes et les Berbères.
Effectivement, en Algérie, comme donc à la Casbah, où voilà, les Algériens de religion juive ou musulmane vivaient ensemble. Et parler la même langue, et chanter la même musique. Et donc, effectivement, le Chaabi fait partie de cette...
Voilà, merci en tout cas, dans cette absence de frontières, qui est bien quelque chose de l'humanitaire. Vous savez, on parle toujours de reporters sans frontières, de médecins sans frontières. Là, c'est permaculture sans frontières et musique sans frontières.
Et Nouiba le représente, puisqu'il y a dans son cœur, il y a une chanteuse et un percussionniste marocain, et puis deux musiciennes gauloises, les deux Aurélie, qui enchantent les oreilles, y compris en Algérie. Vous allez faire des concert en Algérie.
Oui, il y a deux semaines, on a joué à Alger. Ouais.
Aller-retour, voilà, et retour à présent pour nous à la permaculture et à la permaculture en Algérie. Alors, ça serait intéressant, peut-être, je ne sais pas, je m'adresse ici à Zohra Abderrahmane, voilà, de nous raconter aussi une autre expérience concrète. En liaison avec l'Algérie, avec la permaculture. Et peut-être pourra-t-on évoquer après, dans le fil de la discussion, certains échanges que vous avez eus aussi, je crois, sur le terrain de l'architecture. Mais c'est encore autre chose et on sort de la permaculture. Zohra Abderrahmane.
Effectivement, en fait, quand on parlait de permaculture, c'est le respect de la terre et c'est pas de mettre n'importe quoi dans la terre. Mais n'importe quoi, effectivement. Donc il y a tout ce qui est engrais, mais il y a aussi les semences. Et les semences, en fait, qui sont dans le nord ou les semences qui sont dans le sud, la terre n'est pas la même. Donc, du coup, les semences ne sont pas les mêmes. Beaucoup de paysans ont planté des semences européennes, par exemple, mais pour qu'elles puissent vivre, il fallait mettre deux fois plus d'intrants, deux fois plus de nourriture, en fait, artificielle de la terre pour avoir une production. Et en Tunisie, il existe plusieurs associations, en fait, qui défendent les semences paysannes, c'est-à-dire les semences, en fait, les vraies semences, pas les hybrides, des semences de base.
Dites-nous la différence entre les hybrides et les pas hybrides.
Alors, les semences hybrides, normalement, elles sont utilisées qu'une fois, c'est-à-dire qu'elles se reproduisent pas. Oui. C'est des semences qui ont été génétiquement modifiées pour avoir une meilleure production. Mais pour avoir cette production, il faut aussi, en fait, prendre les intrants qui les concernent.
Et donc, en racheter chaque année.
Voilà, oui. En racheter chaque année. Mais aussi, en fait, les maladies qu'elles attrapent, elles sont obligées d'être soignées avec les mêmes, les mêmes molécules qui ont, oui, produits phytosanitaires, en fait, qui sont faites par la même structure, en fait, qui vend et les semences et tout ce qui est phytosanitaire et tout ce qui est aussi pour amoblir la terre. Donc, du coup, c'était une expérience qui s'est passée en Tunisie où on a, par l'intermédiaire, nous on a participé seulement en fait, hein, donc c'était organisé par
l'association RIM, tunisienne, voilà, de permaculture.
Donc une association tunisienne où on a où ils ont rassemblé plusieurs paysans avec leurs semences de base, les semences en fait qui se sont produites, qui ont été produites et qui ont été transmises de génération en génération. Pour pouvoir en fait les échanger entre eux, c'est des semences qui étaient adaptées à la terre tunisienne, là c'était la terre tunisienne, et des semences en fait qui étaient aussi productives que les semences qu'ils étaient obligés d'acheter. Je trouve que ça c'était une expérience très intéressante dans le sens que on respecte la terre en lui donnant en fait des bonnes semences qui lui permet aussi de se nourrir parce qu'en fait avec les racines, avec tout ça, donc puis surtout elle pousse naturellement. Donc ça c'était un point important. Si je me suis bien exprimée.
Et, voilà, et alors quel a été le rôle de l'association dans ce contexte-là ?
L'association c'était de mettre en contact les paysans entre eux pour qu'ils puissent s'échanger des graines en fait ancestrales. Et notamment, j'avais vu quelque chose qui était très surprenant, c'était des graines de pastèques qui poussent dans le désert où il n'y avait besoin que de 3 arrosages dans l'année. Donc du coup, c'est des pastèques qui poussent dans des terres qui sont très pauvres, où on n'a pas besoin de rapporter quoi que ce soit, puisqu'elles ont l'habitude de pousser dans ces terres-là. Elles n'ont pas besoin de plus d'eau que la nature leur donne, puisqu'il n'y avait besoin que de 3 arrosages dans l'année. Et je peux vous assurer qu'au niveau gustatif, elles valaient bien mieux que les pastèques qui sont sans goût, mais qui sont très grosses et qui sont en fait peut-être belles en extérieur. Donc du coup, j'avais été très surprise par cela et je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à prendre les meilleures semences de chaque pays à l'intérieur du pays, parce que c'est ça qui va permettre aux paysans d'avoir suffisamment de quoi manger et surtout sans être obligé de s'appauvrir en étant obligé d'acheter des suppléments ou des accessoires pour pouvoir le faire.
Et alors c'est sur ce sujet, Michel Wilson, qu'un film a été fait également ?
Oui, un film a été fait. Donc cette fête des semences qui se renouvelle tous les ans, c'était en septembre 2018. Elle était au Kef, presque à la frontière avec l'Algérie. Et on a pu voir justement ces premiers échanges entre quelques dizaines de paysans qui étaient venus, qui s'étaient déplacés et qui ont fait des échanges de semences. Il y avait aussi présence de paysans d'Algérie, de membres
c'était
de Torba.
International.
De membres de Torba. Et là, on a un tout petit peu favorisé justement cet échange entre Torba et l'association tunisienne de permaculture. Et Torba va reprendre à son compte ce travail sur la production de semences, l'autonomie semencière, qui est quelque chose à conquérir dans le monde entier face aux multinationales qui essayent de nous imposer un diktat de quelques produits et de tout ce que disait Zora, tout ce qui va avec en matière de chimie, d'OGM, etc.
Et alors comment réagissent justement les multinationales par rapport à ce développement comme ça de la permaculture et de ces graines qu'on n'est pas obligé de racheter chaque année ?
En France, en fait, on n'a pas le droit d'utiliser ses propres semences.
Mais comme on n'a pas le droit, on ne peut pas m'interdire de mettre la graine que j'ai envie de mettre dans de la terre.
Alors, en fait, quand c'est des productions, je pense, paysannes pour soi-même, je pense que là, il n'y a pas de contrôle,
personne ne peut vous obliger. Oui.
Mais je pense, moi aussi, ça m'a surpris.
Quand
je
c'est
me suis
destiné...
Dit, on peut pas,
et pour la diffusion commerciale, ouais. On devrait, en principe, et bon, il y a quand même pas mal de paysans qui tournent cette interdiction, mais on devrait, en principe, n'utiliser que des semences qui rentrent dans un codex qui est censé garantir la parfaite reproductibilité nocivité des plantes et puis la non-nocivité toute relative des semences en question.
Mais ça voudrait dire que les semences dont vous parlez pourraient être considérées comme nocives d'une manière ou d'une autre?
Ah ben, en tout cas, par
pourquoi
les gens...
est-ce que la législation a interdit ces graines?
Allez, on va dire que ça profite plus de
ça fait,
les capitalistes
en fait.
Se mettent beaucoup plus d'argent dans la poche avec les semences hybrides internationales
que les
semences des paysans. Hein,
ils ont fait du lobbying à l'Assemblée nationale.
Ils ont un peu fait ça, oui. Hein,
ouais, ça leur permet d'avoir les graines, d'avoir les médicaments pour.
Oui. Quand tu donnes la maladie et tu donnes le médicament, c'est pas mal, c'est coup gagnant.
Tant qu'à faire. Hein.
Ça me donne vraiment merci de donner l'occasion de parler effectivement question d'argent, des semences qu'il faut soulever. Ben, je ne peux pas ne pas parler du soulèvement algérien. Et donc j'ai chanté une chanson justement qu'ont généré des jeunes pour justement se battre contre ce milieu pour les libertés. C'est un chant d'un club algérois composé en 2018 pour témoigner de leur mal-être et surtout la prolongation du mandat de Abdelaziz Bouteflika.
Donc c'est Nasser Hamzaoui là qui a pris la parole, le musicien, et qui nous interprète l'hymne
des
manifestants actuels en Algérie.
ساعات الفجر ما جاني النوم راني نكون صومي غير بشوية شكون السبة وشكون اللوم ملينا المعيشة هادية ساعات الفجر ما جاني النوم راني نكون صومي غير بشوية شكون السبة وشكون اللوم ملينا المجادية في الأول نقولوا جازت حشاوهن بالعشرية والتانية الحكاية باتت لا كازاد المرادية والثالثة البلاد شيانت بالمصالح الشخصية والرابعة البوبية ماتت ما زالت القضية في الأولى نقولوا جازت حشوهن بالعشرية والثانية الحكاية ماتت لك زاد المرادية والثالثة شدت شيانت بالمصالح الشخصية الرابعة البوبية ماتت ما زالت القضية ساعات الفجر وما جاني النوم راني نكون صومي غير بشوية شكون السبة وشكون النوم مليت المعيشة هادية ساعات الفجر وما جاني النوم راني نكون صومي غير بشوية شكون السبة وشكون النوم راني الجادية
Vous êtes avec Youman, vous êtes avec notre émission autour de la permaculture en Algérie aujourd'hui. Alors, comment ne pas terminer sur cet hymne avec ce qui se passe en Algérie actuellement? Quelques mots peut-être pour conclure notre émission sur ce Hirak, comme l'on dit, c'est-à-dire sur ce mouvement. Comment peut-on traduire ce terme Hirak selon vous?
Un soulèvement.
Un soulèvement.
Voilà. Ouais,
c'est voilà. Alors quelques mots sur ce sujet et on va conclure là-dessus.
On va dire que c'est parti. Il y avait quand même des manifestants, des oppositions, etc. Et puis les jeunes ont innové dans ce domaine à partir du 22 février, où ils ont commencé un petit peu avant à manifester, et puis à manifester de façon citoyenne, par exemple, en ne criant pas s'ils passaient devant un hôpital, en nettoyant après toutes les rues, etc. Et ça a généré donc ce mécontentement des gens qui ont commencé d'abord à demander d'arrêter le cinquième mandat, donc qui était vraiment honteux pour les Algériens, du président. Et petit à petit, ils se sont rendus compte que ça avait beaucoup de succès. Les gens se soulevaient, les gens qui disaient rien, qui se taisaient.
Mouvement spontané, donc,
voilà, qui
pas était organisé par tel ou tel parti politique.
Pour l'instant, voilà, il y a une espèce de collectif, il n'y a pas de tête. Alors, c'est le pouvoir qui dit ça, ou c'est pas mal de personnes qui attendent qu'il y ait, à un moment donné, des têtes qui sortent pour s'organiser. Mais les têtes, malheureusement, sont en prison. Il y a beaucoup de détenus en prison. Et donc, voilà.
C'est-à-dire qu'il y a une montée un peu de la répression
qui
commence à pointer son nez.
Avant, il y avait quelques jours, il y avait 200 détenus. Maintenant, on parle de centaines, quoi. Donc, ça commence à devenir un peu grave, quand même.
Bon, voilà. Alors, avec ce thème musical, alors peut-être qu'on va laisser le plus jeune d'entre nous, Yanis Merakeb, conclure sur ce sujet, à la fois de la permaculture et du Hirak. Votre sentiment, vous, de jeune étudiant franco-algérien?
Oui, déjà, pour continuer sur le Hirak, donc Nasser a bien résumé l'évolution du Hirak depuis le 22 février. Je pense que j'ai marché en été à Tizi Ouzou et à Alger pendant plusieurs... Et donc, voilà, le mouvement a montré sa force, sa capacité à s'unir et à faire un seul front. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à une étape où il faudra se structurer et de se rassembler autour de valeurs communes, d'une charte, on va dire comme ça, pour constituer une force de proposition maintenant et d'alternative à cette impasse politique.
Voilà, eh bien écoutez, il me reste à vous remercier à tous, à Michel Wilson, à Zora Abderrahman, à Yanis Merakeb qui vient de s'exprimer, à nos deux musiciens bien sûr, Nasser Hamzaoui et Mohamed M. Sahel. Et puis aussi, il y a André Zech qui a organisé quelque part cette émission, qui a fait des images, à Madeleine Pochon qui a enregistré et à Elliot Michlas qui a fait des photographies. À bientôt, salut!
Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.